La recluse, sixième partie. Il était à peine 11 heures quand il arriva dans les environs du couvent de Sainte-Marthe, et comme il avait 1 heure avant de pouvoir s'y présenter, il se mit à marcher devant lui, sans but, indifférent à ce qu'il voyait ou entendait, ne cherchant qu'à passer le temps qui lui restait pour attendre midi. Il n'avait qu'une pensée dans l'esprit, et se sentait incapable de s'en laisser distraire. Edmé, toujours Edmé. Au bout d'un quart d'heure de cette promenade à l'aventure, dans un quartier qu'il ne connaissait pas, il se trouva perdu dans un lacis de rues étroites et solitaires qui se croisaient, sans direction voulue, formées d'habitations qui semblaient s'être élevées là aux caprices des propriétaires et sans souci d'un ordre quelconque. Un moment, quand il y prit garde, cela l'inquiéta. Mais il continua néanmoins, rassuré par cette idée qu'il n'aurait qu'à s'adresser au premier passant pour reprendre son chemin. Toutefois, cette inquiétude passagère qu'il avait un moment troublée le rendit un peu plus circonspect et plus attentif. Il se mit à regarder l'endroit où il se trouvait, et involontairement il fut pris de curiosité. Il longeait alors un mur élevé, derrière lequel on voyait pointer quelques cimes d'arbres, et plus loin, la silhouette d'un édifice qui rappelait l'aspect de Sainte-Marthe. C'était un couvent, à n'en pas douter. Il tressaillit. Pourquoi le hasard l'avait-il amené en ce lieu désert, presque inhabité? Gaston avait toujours cru qu'il y a dans le hasard une mystérieuse intervention de la Providence, et il ne fut pas éloigné de penser que c'était Dieu lui-même qui l'avait poussé là. Une fois que cette pensée se fut emparée de son esprit, elle ne le quitta plus. Il avança, fit le tour du mur de clôture, et finalement se trouva au seuil d'une grande porte qu'on avait laissée entrebâillée. Il la poussa. Elle ouvrait sur une vaste cour, au fond de laquelle on apercevait un bâtiment, qui présentait, dans quelques-unes de ses parties, certains vestiges Renaissance. Haute cheminée ornée, toit à pans coupés, etc. À droite se tenait une autre construction plus moderne, dont les fenêtres à vitraux coloriés annonçaient une chapelle. Puis enfin, à gauche, chose singulière et assurément anormale, en retour sur la cour, un corps de logis indépendant du couvent, et qui semblait habité par des ménages d'ouvriers et de petits bourgeois. Gaston avait franchi le seuil de la porte. Il fit quelques pas dans la cour, hésitant et craignant d'être taxé d'indiscrétion. Pourquoi, en effet, était-il entré dans cette demeure? Il n'eût pu le dire lui-même. C'était un sentiment confus, né de 1000 incitations diverses, et pour ainsi dire analysable. Il voulait voir. Il était attiré là presque malgré lui. Il lui semblait qu'il obéissait à un désir que rien n'expliquait, mais qui s'affirmait, impérieux et indiscutable. Cependant, on l'avait aperçu et on était venu à sa rencontre. C'était la sœur sacristine. Gaston salua. Sa bonne mine, sa distinction manifeste, le ruban qu'il portait à sa boutonnière, produisirent leur effet ordinaire. La sœur sacristine sourit. « Vous désirez parler à madame la supérieure ? » demanda-t-elle avec le plus affectueux sourire qu'elle put trouver. « Il faudra alors que vous attendiez, car c'est l'heure de la prière, et vous ne pourrez la voir. »«
Dieu me garde d'être importun, » répondit Gaston. « Je puis revenir. »«
Ce n'est pas la peine. L'entrée de la chapelle est libre, et si vous le voulez, vous pourrez y attendre que madame la supérieure puisse vous recevoir. » Gaston fit un signe d'acquiescement et suivit la sœur. Mais à peine eut-il fait quelques pas dans les couloirs qu'il devait traverser, qu'une sensation inattendue le saisit, et ce fut avec une surprise douloureuse qu'il constata combien le couvent dans lequel il venait de pénétrer différait de celui de Sainte-Marthe. Dès qu'il mit le pied sous la voûte sombre du corridor qui conduisait à la chapelle, il sentit une humidité froide tomber sur ses épaules et glacer sa chair. Le jour n'entrait que par d'étroites meurtrières ouvertes dans le mur épais. Un silence lugubre régnait de toutes parts, et l'on y respirait une âcre senteur de renfermé et de moisi. Quand il passa près du parloir, il y jeta un coup d'œil et frissonna. Cela ressemblait, avec une apparence plus sinistre encore, au parloir de Maza, où le prévenu ne peut communiquer avec ses parents ou ses amis qu'à travers le guichet d'une grille. Ici, il n'y avait pas même de guichet, et la grille était voilée d'une longue draperie de couleur sombre. On pouvait se parler, on ne pouvait se voir. Quand il entra dans la chapelle, il respira. Relativement, la chapelle était lumineuse. Des hautes fenêtres qui donnaient sur la cour tombaient de grands rideaux qui tamisaient discrètement les pâles rayons du soleil, répercutés par les mousselines et les dentelles qui ornaient l'autel. Mais cette clarté vive et gaie s'arrêtait contre le mur opposé, interceptée brutalement par une immense grille quadrillée doublée d'une draperie noire. C'est derrière cette draperie, dans une salle où le regard ne pouvait pénétrer, que priaient et psalmodiaient les sœurs et les élèves, à l'abri de toute indiscrétion. Au-dessus, on apercevait quelques tribunes, également dissimulées, qui étaient spécialement réservées aux malades et aux infirmes. Et c'était tout. Ça et là, quelques chaises pour les fidèles du dehors, un grand Christ d'ivoire se détachant sur une croix d'ébène, et quelques reliques saintes, pieusement conservées dans de petits coffrets à fermoirs d'argent. Mais Gaston ne donna aucune attention à ces divers objets, et dès qu'il fut entré, son âme tout entière s'attacha à cette draperie jalouse qui lui dérobait la seule chose qu'il eût voulu voir. Il avait presque oublié Mariette, tant il était absorbé par cette pensée unique. D'ailleurs, depuis quelques secondes, un murmure confus, indistinct, s'était élevé de derrière la grille. De temps à autre, il entendait remuer une chaise. Le bruit d'une toux opiniâtre arrivait jusqu'à lui, et son regard se faisait ardent, comme s'il eût voulu déchirer ce voile irritant qui l'arrêtait. Toutefois, il finit par s'apaiser et prit une attitude plus calme. Un silence profond s'était établi, l'office commençait. Il s'agenouilla et laissa tomber sa tête dans ses deux mains, pour ne pas laisser surprendre les impressions multiples qui l'assaillaient, menaçant de lui enlever sa force et son courage. Du reste, cela fut court, un quart d'heure à peine. Midi sonnait, quand le prêtre qui officiait donna sa bénédiction à l'assistance et regagna la sacristie à pas compter. Gaston demeura encore quelques secondes. Mais les fidèles quittaient un à un la chapelle et ils ne pouvaient rester davantage. D'ailleurs, Mariette l'attendait. Il abandonna sa place, passa devant la grille et il se dirigeait vers la porte de sortie quand tout à coup il s'arrêta terrifié et prêt de tomber. Au moment où il passait devant l'autel, un mouvement inattendu s'était effectué parmi les personnes qui passaient devant la grille. Une main avait soulevé un coin de la draperie et un cri de suprême angoisse et de défaillance s'était fait entendre. Or, à tort ou à raison, dans la voix qui avait poussé ce cri, Gaston avait cru reconnaître celle de Mademoiselle de Beaufort. Ne se trompait-il pas? Était-il possible? À tout prix, il voulait savoir, et poussé par un sentiment plus fort que sa volonté même, il fit quelques pas pour se rapprocher. Mais il n'alla pas loin. Une rumeur discordante s'entendait maintenant derrière la grille. C'était un brouhaha indescriptible à travers lequel on distinguait des exclamations effarées. La draperie s'agitait par moments, comme par saccades, et des regards violemment allumés s'attachaient au jeune commandant, qu'il semblait tenter d'exorciser. Il en fut presque interdit. Il avait vu cependant bien d'autres tempêtes, sans en avoir été troublé. Mais ici, dans un pareil lieu, après la sensation si vive qu'il venait d'éprouver, il n'eut pas la force de réagir contre sa propre émotion. La porte de sortie était ouverte, et machinalement, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, il gagna la rue et s'enfuit, comme s'il venait de commettre un sacrilège. Un quart d'heure plus tard, il arrivait à Sainte-Marthe et entrait au parloir, où il trouvait Mariette et sœur Rosalie. Chapitre 18. « Ah, vous êtes en retard !» dit la jolie enfant avec une petite moue charmante. « Moi qui vous attendais avec tant d'impatience, si vous saviez combien j'avais hâte de vous voir !» Gaston lui prit les mains, sans trop savoir ce qu'il faisait. « Pardonnez-moi, » dit-il en essayant de se remettre. « J'ai été retardé, en effet. Je vous expliquerai cela. Mais voyons, dites-moi, j'ai reçu votre lettre. Vous avez appris quelque chose ?»«
Depuis 3 jours. »«
Il s'agit d'Edmé. » ?»«
Et de qui donc ?» « Pauvre amie, je suis si malheureuse depuis qu'elle est partie, et je m'ennuie tant. »«
Que vous a-t-on dit ?»«
Ah, il n'y a encore que le hasard pour bien faire les choses, » répondit Mariette, « car sans lui nous n'aurions jamais rien su. »«
Mais que savez-vous ?»«
Voici. Il faut dire d'abord que l'année dernière, nous avions ici pour camarade Mademoiselle Irma de Fontange. » Une belle jeune fille appartenant à une famille qui malheureusement ne pouvait pas lui constituer une dot. Irma n'ignorait pas ce détail, et elle était bien résignée à passer sa vie dans un cloître, ne voulant pas d'un époux qui l'aurait prise pour sa beauté et qui plus tard lui aurait reproché peut-être de ne lui avoir rien apporté.
Quelle idée !
C'était la sienne, et je suis loin de partager sa manière de voir. Car il me semble au contraire qu'un homme qui épouse une jeune fille sans dot lui donne, en agissant ainsi, la meilleure preuve d'amour qu'elle puisse désirer. N'est-ce pas votre avis ?
Assurément.
À la bonne heure. Je suis bien aise de vous entendre parler ainsi.
Enfin, c'était l'idée d'Irma, et quoiqu'elle n'eût pas de vocation, elle était décidée à se retirer au couvent.
Mais voilà que tout à coup, un oncle à elle, qui était parti pour l'Inde il y avait des années, et dont on ne parlait plus depuis longtemps, vient à mourir subitement, laissant à sa nièce, dont il était le parrain, une fortune de plusieurs millions.
De sorte qu'elle a renoncé au couvent.
Tout de suite, vous auriez fait comme elle, je suppose.
N'en doutez pas.
Elle a donc quitté Sainte-Marthe, voilà près d'un an, et il y a 3 jours, elle est venue nous annoncer qu'elle se mariait.
Elle n'a pas perdu de temps.
Il faut toujours en perdre le moins possible.
Mais je ne vois pas.
Vous allez voir. Irma est donc venue nous voir l'autre jour, pendant la récréation, et après qu'elle eut satisfait à toutes les questions dont on l'accablait, comme je me rappelais qu'elle était, comme moi, fort liée avec Edmé, je lui ai dit ma tristesse et le chagrin que j'éprouvais que l'on nous eût caché le couvent où elle devait se trouver. Alors, continua Mariette, Irma montra un grand étonnement, et en hésitant, elle me confia que le dimanche précédent, elle avait vu et embrassé Edmé.
« Où cela ? »
demandai-je, et elle me répondit que c'était à l'adoration.
« Vous comprenez que je n'ai pas gardé cela pour moi, j'en ai conféré aussitôt avec sœur Rosalie, et c'est elle qui m'a engagée à vous écrire.
« Que vous êtes bonne, et combien je vous remercie !» répondit Gaston, touché de la grâce charmante et de l'abandon communicatif de la jolie enfant.
« Mais vous ne m'auriez pas écrit que je serais venu tout de même.
Vous avez reçu une lettre de Maxime ?»«
C'est cela, une longue lettre de 4 pages. »«
Ah, il vous gâte, vous !» Car moi, maintenant, depuis 15 jours surtout, ce sont presque des télégrammes qu'il m'envoie. »
« Ne lui en veuillez pas, mademoiselle. »«
Oh, je ne lui en veux pas non plus. » »«
Car dans cette longue lettre qu'il m'a adressée, il n'est guère question que de vous. »«
Vraiment ?»
Il se reproche d'être parti si vite.
« Il est si bon. » »«
Et il vous aime tant. »
Mariette baissa les yeux et ses joues se couvrirent d'une vive rougeur. « Et doit-il revenir bientôt ? » reprit-elle peu après d'un accent ému. « Il me le fait espérer, et je ne doute pas qu'il ne soit lui-même bien impatient de vous revoir. » Il y eut encore un court silence. Sœur Rosalie s'était rapprochée des deux jeunes gens. Elle rappela à Mariette que l'heure allait sonner et l'invita à se retirer.
« Déjà ? » fit Mariette.
« Monsieur de Pradel ne manquera pas de revenir, et j'ai d'ailleurs quelques recommandations à lui adresser.
« Vous, ma sœur ? »
« Oui, mon enfant.
Eh bien, je me retire et vous laisse.
Mais, ajouta-t-elle en se tournant vers Gaston, Si vous écrivez à Maxime, n'oubliez pas de lui dire que je lui suis bien reconnaissante de penser à moi et que je serai heureuse de le revoir. » Et elle partit en courant comme elle était venue. Elle n'avait pas disparu que Fanny Stevenson s'emparait avec autorité du bras de Gaston.
« Cet enfant n'a rien vu, » dit-elle d'un ton âpre. « Mais moi qui vous observais tout à l'heure, je n'ai pu me tromper. Vous étiez pâle en arrivant, et il y avait encore dans votre regard une dernière expression d'effarement. »
« Rien ne vous échappe donc, » fit Gaston.
« C'est vrai, n'est-ce pas ?»«
Sans doute. »
« Vous avez vu Edmé, peut-être ?»«
Non, mais elle m'a vu, elle, et cela suffit. »«
Mais d'où venez-vous donc ?»«
Du couvent de l'Adoration. »
« Qui vous avait dit d'y aller ?»«
Personne, ou plutôt c'est Dieu qui a guidé mes pas. »
Le jeune commandant raconta brièvement alors ce qui lui était arrivé une heure auparavant, et pendant qu'il parlait, la malheureuse mère mordait ses lèvres jusqu'au sang, et ses doigts irrités se crispaient sur la bure de sa robe.
« Elle, elle, ma pauvre et douce Edmé, » balbutia-t-elle.
« Mon Dieu, si près de moi et je ne puis la voir, et je reste là !» Elle secoua la tête avec violence, comme le fauve que le sang ou la colère aveugle.
« Non, non, non !» poursuivit-elle, la lèvre torve.
« C'est assez souffrir. Je ne veux pas laisser torturer plus longtemps mon enfant, car elle me reprocherait un jour, à bon droit, mon indifférence et ma lâcheté. »
« Prenez garde !»«
À quoi donc ? N'est-ce pas à eux plutôt de trembler ? Que pourrait-il ajouter encore aux tortures qu'ils m'ont fait endurer ? » ?»«
S'il ne s'agissait que de vous, vous auriez raison peut-être, mais Edmé est en leur pouvoir. » »«
Je la leur arracherai !» !»«
S'ils vous en laissent le temps. Songez-y, Miss Fanny, vous avez été prudente jusqu'ici. Ne compromettez pas le bénéfice acquis de cette conduite, et ne vous hâtez pas trop d'engager une lutte où vous pouvez être vaincue. »
« Je souffre tant !»«
Et croyez-vous que je souffre moins ? Pensez-vous que mon cœur ne saigne pas aussi ? Mais j'ai peur de la perdre encore une fois. Je tremble qu'on nous l'enlève de nouveau. Et si cela arrivait, quelle responsabilité n'assumeriez-vous pas ?
Mon Dieu !
Laissez-moi faire.
Et quel est votre dessein ?
Fiez-vous à moi. Je comprends comme vous qu'il est urgent d'agir. » Nous savons maintenant en quel lieu on tient Edmé enfermé, et je vous jure que je vais faire bonne garde.
Soit, dit Miss Fanny, je me tairai, je refoulerai au fond de mon cœur tous ces sentiments de révolte et de haine qui le brûlent et le déchirent. Je vous accorde quelques jours encore, mais je jure de mon côté que si les nouveaux efforts que vous allez tenter restent infructueux, rien ne pourra plus m'arrêter. Et ils verront ce dont je suis capable. »
Gaston avait son idée. En quittant Miss Fanny, il prit la direction du couvent de l'Adoration, et en moins d'un quart d'heure, il en apercevait le mur de clôture. Mais au lieu d'aller à la porte par laquelle il était entré la première fois, il fit le tour de l'établissement et gagna le corps de logis dont nous avons parlé, et qui, indépendant de la communauté, faisait retour sur la cour principale. Ce corps de logis était habité par quelques modestes ménages de bourgeois et d'ouvriers. Mais le personnel des locataires s'y renouvelait souvent, en raison même de l'espèce de servitude que le voisinage du couvent lui créait. On y entendait à toute heure de jour et de nuit le bruit de la cloche qui appelait à la prière, et l'on assistait, pour ainsi dire, aux offices qui se disaient à la chapelle. Cela n'avait rien précisément de récréatif, et il était rare qu'il n'y eût pas toujours quelques logements vacants. Gaston vit, en effet, en approchant, deux ou trois écriteaux pendus au-dessus de la porte d'entrée. Il s'en réjouit et s'empressa de s'adresser au concierge. Ce dernier fit un geste d'étonnement qui n'échappa point au jeune commandant. « Vous avez quelques logements à louer ?» demanda ce dernier, sans tenir compte de l'étonnement de son interlocuteur.
« Oui, monsieur. » répondit le concierge. « Mais je doute qu'il puisse vous convenir. »«
Pourquoi ?»«
Ce sont des logements d'ouvriers. »«
Qu'à cela ne tienne, » repartit Gaston, « car le logement que je cherche est destiné à être occupé par mon domestique. »
Le concierge se leva.
S'il en est ainsi, je crois bien que j'ai votre affaire.
Peut-on visiter les lieux?
Si monsieur veut me suivre.
Le concierge confia sa loge à sa femme, et prenant les devants, il se mit à monter l'escalier, suivi de près par Gaston. Ils arrivèrent ainsi au palier du troisième étage.
« C'est ici ?» interrogea Gaston.
Le concierge avait ouvert une porte. Il s'effaça pour permettre au jeune homme de passer. La chambre était propre. Deux grandes fenêtres y laissaient pénétrer un jour cru. Gaston en ouvrit une et plongea son regard au dehors. Les fenêtres donnaient sur la cour. En face s'élevait le couvent, et Gaston constata avec un frémissement de joie que de l'endroit où il se trouvait, on pouvait distinguer tout ce qui se passait dans le parloir.
C'est plus qu'il n'espérait.
« Mon domestique sera fort bien ici, » dit-il. « Je retiens donc le logement. Dans une heure, votre nouveau locataire viendra s'installer. » Et il allait se retirer quand il demeura comme cloué à sa place par une surprise mêlée de stupeur. Derrière la haute fenêtre du parloir, il venait d'apercevoir la silhouette d'Edmé. Chapitre 19. Un frisson glacé passa sur sa chair et tout son être frémit. Elle, c'était bien elle. Il ne la voyait qu'imparfaitement, mais son cœur ne pouvait s'y tromper, et un sanglot s'engagea dans sa gorge. C'est qu'aussi, la pauvre recluse était bien changée. Il remarqua surtout la profonde altération de ses traits et l'amère et douloureuse mélancolie de son attitude. Son cœur se brisa. Il eût voulu franchir l'espace, la prendre dans ses bras, la serrer contre sa poitrine. Jamais il ne l'avait tant aimée que dans ce moment. Il eût donné sa vie pour presser une seconde son front pâli sous ses lèvres ardentes. Mais il restait là, retenu à sa place par un sentiment supérieur. Il regardait et attendait. Quoi? Il ne le savait pas lui-même. Peut-être espérait-il qu'elle tournerait les yeux de son côté et qu'elle l'apercevrait. Edmé était loin de soupçonner sa présence si près d'elle. Son père lui parlait et elle l'écoutait, triste, accablée, résignée comme toujours. Que lui disait monsieur de Beaufort? Parfois un sourire contraint relevait le coin de sa bouche, son regard se voilait et elle cachait sa tête sur la poitrine de son père. Parfois aussi un éclair parti de ses yeux, d'ordinaire si doux, éclairait son visage. Et Gaston y surprenait une expression qu'il ne leur connaissait pas. Qu'est-ce que cela voulait dire? La pauvre créature, lasse de souffrir, sentait-elle sourdre en elle des mouvements de révolte mal contenus? Monsieur de Beaufort paraissait, par instants, embarrassé et timide. On eût dit qu'il s'étonnait de certaines résistances qu'il rencontrait pour la première fois chez son enfant. Gaston observait tout cela, partagé entre mille sensations contraires. L'homme qui l'accompagnait attendait derrière lui, étonné, sans comprendre. Tout à coup, le jeune commandant se retira brusquement de la fenêtre et, gagnant précipitamment la porte, « C'est bien, » dit-il au concierge, « je retiens cette chambre. Mon domestique viendra, ainsi que je vous l'ai dit, s'y installer dès aujourd'hui, et il paiera le terme d'avance. » Puis il descendit les marches 4 à 4. Il n'avait pas de temps à perdre. Il venait de voir une chose effrayante. Pendant l'entretien du père et de la fille, il avait remarqué que les sœurs allaient et venaient, très affairées, à travers les couloirs, et il n'y avait pas pris garde autrement. Mais bientôt, il vit Edmé jeter un voile épais sur ses cheveux, poser sur ses épaules un châle dont monsieur de Beaufort l'aida à s'envelopper, puis elle prit le bras de son père et quitta le parloir. Une sueur froide perla à ses tempes et une épouvante sans nom le saisit. Allait-on encore une fois enlever Edmé? Et dans ce cas, où devait-on la conduire? Il y avait, dans cet acharnement à soustraire la malheureuse jeune fille à toute recherche, un fait si révoltant, si monstrueux, qu'il n'y pouvait croire. Il voulait s'assurer qu'il se trompait. Quand il arriva dans la rue, M. de Beaufort montait dans le coupé qu'il avait amené. Mais Edmé y était-elle montée avec lui? C'était là le point important, et il ne put le vérifier. car au moment où il se précipitait vers la voiture pour fixer ses doutes, le cocher enlevait ses chevaux et le coupé partait au grand trot. Gaston eut un accès de rage aveugle et fit un geste de résolution farouche. « Ah ! Quoi qu'il fasse ! » murmura-t-il avec fureur. « Quelques précautions qu'il prenne, il faudra bien que je la retrouve, et ce jour-là, à mon tour, je n'aurai ni pitié ni faiblesse. » Il rentra chez lui, agité, fiévreux, en proie à une exaltation comme il n'en avait jamais éprouvée. Malheureusement, il était réduit à l'inaction jusqu'au lendemain, car c'est le lendemain seulement à midi qu'il pouvait voir sœur Rosalie et se concerter avec elle sur les résolutions à prendre. Toutefois, en attendant, il donna ses ordres à Bob, lui désigna la maison où il venait de louer une chambre pour lui, et lui expliqua surabondamment ce qu'il avait à faire. C'était simple, d'ailleurs. Tenter d'établir des communications avec le couvent, s'y ménager des intelligences, si c'était possible, fréquenter la chapelle. Enfin, surveiller toutes les personnes qui entreraient à l'adoration ou qui en sortiraient. Bob partit en portant ses instructions, et Gaston resta seul. Le soir, il alla rôder autour de l'hôtel de la chaussée d'Antin, dans l'espoir d'y rencontrer M. de Beaufort. Mais il ne vit personne. L'hôtel était plongé dans l'ombre, on eût dit qu'il était inhabité. La nuit qu'il passa à la suite de ces événements fut peut-être une des plus tourmentées qu'il eût passées encore. Mais un incident inattendu allait lui apporter une distraction, et en même temps, un aide qui n'était pas à dédaigner. Le matin, vers 8 heures, il entendit carillonner à sa porte. Bob n'était pas là, Gaston alla ouvrir, et il fut tout étonné de voir entrer Maxime. Maxime avait précipité son départ, il n'avait pas pris le temps d'adresser un télégramme à son ami, s'était jeté dans le train express la veille, vers 2 heures, et il arrivait tout droit chez Gaston, après avoir pris à peine 1 heure pour secouer la poussière du voyage. « Pardieu ! » fit Gaston. « Voilà une agréable surprise. Je ne t'attendais que dans quelques jours. »« Je ne tenais plus à Brest, » répondit Maxime. « Paris me manquait. » « Et Mademoiselle Duparc ?»« Et Mariette aussi, pourquoi le cacherais-je ? Décidément, j'en suis fou. » »« Cela se voit de reste. Je suis résolue. » »« À quoi ? À me marier. » Gaston regarda son ami avec un sourire ironique. « Ah, ça !» dit-il avec une pointe d'enjouement. « Tu me dis cela comme si tu avais hésité. »« Sans doute que j'ai hésité. »« À quel propos ?»« Dame, écoute donc. Moi, je n'y avais jamais songé. J'ai bien ébauché quelques amourettes dans les 4 parties du monde, mais cela n'avait effleuré que l'épiderme, et je n'en faisais pas moins mes 2 repas par jour, sans compter les lunchs. Mais il est écrit que c'en est fait. » « Pauvre Maxime, tu me plains. »« Eh non, seulement je ne m'y attendais pas. »« Ni moi non plus, pardieu. Quand je me suis rendue pour la première fois au couvent de Sainte-Marthe, je comptais continuer mon rôle de tuteur et de cousin. Et je m'imaginais que Mariette et moi, nous nous retrouverions comme nous nous étions quittés 3 années auparavant. » Enfant étourdi et insouciant qui ne songe qu'à rire et ne demande rien encore à la vie. Mais au lieu de la petite fille que j'avais laissée au départ, voilà que j'aperçois une belle personne dans toute la grâce de l'adolescence. Je la regarde, elle la trouve charmante, je l'écoute et elle est spirituelle. Enfin, je lui parle et je la vois s'émouvoir et se troubler, comme si ma présence lui faisait plaisir et peur. Ma foi, c'est communicatif cela, et j'ai perdu la tête. Tu la retrouveras. C'est pour cela que je me marie. « Alors, tu vas la demander ?» Maxime éclata en un joyeux éclat de rire. « N'est-ce pas là, dit-il gaiement, une situation exceptionnelle et tout à fait charmante. 2 orphelins qui ne dépendent plus que d'eux-mêmes et qui se donnent l'un à l'autre, dans toute la plénitude de leur volonté et la sincérité de leur amour. Cite-moi beaucoup de mariages qui se concluent dans de semblables conditions. » « Tu as raison. » « Mais voyons, nous bavardons tous les deux et j'oublie... »« Quoi donc ?»« Eh, mais il faut nous rendre à Sainte-Marthe. » Gaston haussa les épaules. « Décidément, répliqua-t-il, la tête n'y est plus. Il n'est pas 10 heures encore, et la seule chose que nous ayons à faire, c'est d'aller déjeuner.
Oh, « C'est vrai. Tu vois, il est temps que cela finisse. J'ai toujours eu cependant un robuste appétit, et j'étais hors de pair sous ce rapport au carré des officiers.
Mais depuis un mois...
Es-tu prêt? Quand tu voudras.
Eh bien, partons, mon ami, car je n'ai pas moins de hâte que toi d'aller au couvent de Sainte-Marthe. »
Ils allaient sortir. Maxime s'arrêta sur les dernières paroles de Gaston.
« Au fait, dit-il, pris d'une idée subite, je n'en fais jamais d'autre, et je suis vraiment bien ingrat. »«
Qu'est-ce qu'il prend ?»«
Ah, oh, l'amour rend égoïste. » »«
On le dit. »
Et dans la joie de mon bonheur, j'oubliais que tu traverses en ce moment de cruelles épreuves.
Ce ne sera rien, je l'espère.
Où en es-tu?
Au même point, à peu près.
Mais mademoiselle de Beaufort...
Disparue.
Ah, je compte bien que tu ne repousseras pas mon concours, et tu sais que tout mon sang et ma vie sont à toi.
Gaston remercia du geste.
Oui, oui, je sais tout cela, dit-il. Et je compte sur ton amitié et ton dévouement.
Mais viens, partons, et tout en déjeunant, je te raconterai ce qui s'est passé pendant ton absence et les événements qui se préparent.
Chapitre 20. Quelques minutes avant midi, les deux amis entraient au couvent de Sainte-Marthe, bien diversement impressionnés l'un et l'autre. Un changement inattendu s'était opéré chez Gaston. Ce qu'il avait vu la veille, la certitude qu'il venait d'acquérir de la nouvelle tentative que l'on préparait contre Edmé, avait modifié ses dernières résolutions. Et il arrivait, bien décidé à s'unir à Fanny Stevenson pour empêcher l'odieuse séquestration que l'on méditait. Jusqu'ici, il avait hésité. Il ne pouvait croire à tant de noirceur. Il s'obstinait à espérer en l'amour que M. de Beaufort avait toujours témoigné à sa fille. Mais depuis la veille, il ne doutait plus que le malheureux père ne fût entièrement gagné à la cause de Madame de Beaufort, et il voulait empêcher qu'Edmé ne lui fût enlevé. Ce qu'il allait faire, il ne le savait pas bien, mais il verrait Miss Fanny, et à eux deux, il ne pouvait manquer de réussir. Quant à Maxime, il ne pensait qu'à Mariette, et il était fort ému. Ce qu'il avait à lui dire était bien simple, cependant. Mais quelquefois, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à exprimer. Comment s'y prendrait-il? Par où fallait-il commencer? Le moment psychologique était venu, et après avoir cru fermement à l'amour de Mariette, maintenant il se sentait pris d'un doute affreux. Mariette était la franchise et la bonté même. Jusqu'alors, il avait cru lire dans ses yeux tout ce qui se passait dans son cœur. Mais qu'allait-il devenir s'il s'était trompé, et si ce qu'il avait pris pour de l'amour n'était que l'expression d'une reconnaissance dont elle n'avait pas cherché à voiler la vivacité? Quand il pénétra dans le parloir et qu'il aperçut la jolie enfant, son cœur se mit à battre avec une violence désordonnée. Mariette, elle, ne paraissait ni plus émue ni plus embarrassée qu'un mois auparavant, lors des premières visites de son cousin. Son visage resplendissait de la même joie sereine, et c'est avec la même candeur, le même abandon, qu'elle accourut présenter son front au baiser fraternel du jeune lieutenant de vaisseau. Celui-ci l'entraîna dans un coin du parloir. « Ah, je ne vous attendais pas si tôt, » dit-elle avec sa moue charmante, « et pourtant j'avais hâte de vous revoir. Vous avez été bien longtemps absent, et vous m'avez écrit bien peu souvent. »
« J'ai été si occupé, » balbutia Maxime.
« La marine prend donc tous vos instants ?»«
Ce n'est pas la marine seule. »«
Cependant,
j'ai eu d'autres soucis. »«
Vous, à quoi pensiez-vous donc ?»«
À vous. »«
Vraiment ? Ça, c'est gentil. Car moi, il ne se passe pas de jour... »«
Chère Mariette !»«
Enfin, expliquez-moi au moins quelle grave préoccupation... »
Un nuage glissa sur le front du jeune homme, et comme Mariette s'était assise, il prit place à ses côtés.
« Voici, dit-il au bout d'un instant, Depuis que je vous ai revu, j'ai cru remarquer que vous ne vous plaisiez pas beaucoup à Sainte-Marthe.
Dites « pas du tout » et vous serez dans le vrai.
Alors, j'ai cherché quel moyen je pourrais bien prendre pour vous en faire sortir.
Mariette enveloppa son cousin d'un regard où il n'y avait encore que de l'étonnement.
« Sortir d'ici ? » répéta-t-elle. « Y songez-vous ? Et que pourrais-je faire une fois dehors ?»
C'était le difficile, en effet.
« Une orpheline, sans parents, sans amis. »
C'est ce que je me suis dit.
« Et vous y avez renoncé ?»
J'ai persisté au contraire, et je crois que j'ai bien fait.
« Comment cela ?
Car si vous le voulez, cela dépendra de vous. »
Cette fois encore, l'enfant regarda Maxime avec une profonde attention.
« Voilà que je ne comprends plus, »
dit-elle d'un ton lent et vague.
« C'est pourtant bien clair, » répartit Maxime,
« ainsi que vous le disiez. Il vous serait difficile, une fois hors de Sainte-Marthe, de rencontrer une situation convenable, et vous vous y trouveriez plus malheureuse et plus isolée qu'au couvent. À moins, cependant...
Achevez !
À moins qu'il ne se présente un homme que votre grâce et votre bonté auraient séduit et qui vous demanderait le bonheur de devenir votre époux.
« Vous voulez me marier ? »
fit Mariette avec un tressaillement.
« Cela vous effraierait-il ? »
« Cela ne m'effraierait pas, mais il me semble si impossible qu'un homme raisonnable songe à épouser, sans dot. »
« Il y en a un. »«
Vous le connaissez ?»«
C'est un jeune homme, 25 ans, ni beau ni laid, avec de la gaieté, de l'esprit aussi, du moins on le dit, et possédant une fortune modeste, mais suffisante pour assurer le bonheur d'une femme qui ne serait pas très exigeante. »
Mariette garda le silence. Elle avait penché son beau front. Une imperceptible pâleur couvrait ses joues d'ordinaire si roses, et sa poitrine se gonflait par instants sous l'empire d'une émotion intense.
« Vous ne répondez pas ?»
insista Maxime d'une voix inquiète.
« Que voulez-vous que je réponde ? » dit-elle. « J'étais loin de m'attendre à une pareille communication, et vous admettrez qu'elle a de quoi surprendre. » Je ne dis pas que quelquefois je n'ai pas arrêté ma pensée sur un avenir qui est celui auquel rêvent le plus volontiers toutes les jeunes filles de mon âge. Mais moi, je m'étais fait un idéal.
« Ah ? » fit Maxime un moment décontenancé.
« D'abord, je me suis promis de n'épouser jamais qu'un homme qui m'aimerait.
Ah,
celui-là vous aime à en perdre la raison.
Il me connaît alors ?
Depuis longtemps.
« Mais ce n'est pas tout.
Qu'y a-t-il encore ?
Il y a que je voudrais, moi aussi, être bien sûr que je l'aimerais. »
Par un mouvement irréfléchi, Maxime prit la main de Mariette et la serra tendrement dans les siennes.
« Il se trompe peut-être, répliqua-t-il, mais il a espéré quelquefois qu'il ne vous était pas tout à fait indifférent.
« Je le vois donc ?
Fit Mariette, dont le visage s'éclaira.
« Oui, oui, souvent.
Et quel est son nom ?»«
Maxime de Palonnier. »
Mariette eut un sanglot de bonheur. Un petit cri vif et doux comme un cri d'oiseau s'échappa de ses lèvres, et elle leva sur Maxime ses deux yeux voilés de douces larmes.
« Oh, vous êtes le meilleur, le plus généreux des hommes !» dit-elle avec effusion. Et ma vie tout entière ne suffira pas à vous payer le bonheur que vous m'aurez donné. »
En parlant ainsi, elle alla cacher sa tête éperdue sur la poitrine du jeune homme, sans prendre garde à sœur Rosalie, qu'un pareil oubli pouvait à bon droit scandaliser. Mais Miss Fanny ne songeait guère à elle. Gaston venait de lui raconter ce qui était arrivé, et à la nouvelle du récent enlèvement de sa fille, elle s'était dressée sur sa chaise, palpitante, oppressée, le regard chargé de haine.
« C'en est trop !» dit-elle d'un ton violent. « Ils ont comblé la mesure, et il est temps que nous intervenions. »
« C'est mon avis, » approuva Gaston. « J'y suis désormais résolu, et ce que vous me direz de faire, je le ferai. »
« À la bonne heure ! Dès aujourd'hui, moi je me mettrai à l'œuvre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le moindre retard peut aggraver la situation. »
et si nous restions plus longtemps inactifs, il tuerait la pauvre enfant.
Que décidez-vous ?
Vous le saurez bientôt, il faut que je réfléchisse. Mais ne craignez rien, comptez sur moi. Et je vous jure qu'avant peu, je saurai si Dieu est avec nous ou avec les misérables qui m'ont ravi ma fille.
Devrais-je revenir demain ?
Non, ne reparaissez plus. On vous épie désormais autant que moi-même. Nous avons peut-être manqué de prudence jusqu'ici, et il ne faut plus retomber dans la même faute.
Où vous verrai-je, si je ne puis me présenter à Sainte-Marthe ?
Laissez-moi faire, et fiez-vous à moi. Seulement, pendant quelques jours, rentrez chez vous de bonne heure, et attendez que l'on aille vous y trouver de ma part.
Gaston n'insista pas et se soumit.
Puis 24 heures se passèrent sans qu'il entendît parler de rien ou qu'il vît personne. Mais le lendemain soir, vers 10 heures, comme il était seul dans sa chambre, on sonna à la porte et il alla ouvrir. Et quelle ne fut pas sa stupéfaction en apercevant sur le seuil Miss Fanny Stevenson dans son costume de religieuse. Miss Fanny passa 1 heure au moins chez le jeune commandant et eut avec lui une longue conversation, à la suite de laquelle ils prirent ensemble des résolutions énergiques qui devaient assurer le succès de la difficile entreprise qu'ils allaient tenter. Nous croyons inutile de faire connaître pour le moment ces résolutions au lecteur, mais les événements dramatiques qui vont suivre l'édifieront surabondamment sur ce point en l'initiant à un monde inconnu, bizarre, mystérieux, qui s'est dérobé jusqu'à ce jour sous un voile impénétrable et qu'aucune main profane n'avait encore osé soulever. Deuxième partie, un drame au couvent. Chapitre 1. Il y avait plusieurs mois qu'Edmé avait quitté le couvent de Sainte-Marthe. Quand son père était venu la prendre à l'adoration, il l'avait trouvée bien abattue et bien triste. Elle avait beaucoup réfléchi, et un changement profond s'était opéré en elle. Ce qui lui arrivait lui semblait incompréhensible. Quelque chose se tramait qu'elle ne démêlait pas bien, mais qui l'effrayait. Elle se sentait comme abandonnée, menacée même, sans qu'elle eût pu dire à propos de quoi. Qui lui en voulait donc ? Et que lui voulait-on ? Elle s'y perdait. Le jour où son père était venu la chercher à l'adoration, elle avait deviné, sous ses questions inquiètes, un chagrin qu'il n'avouait pas, qu'il s'efforçait de dissimuler, mais qui se trahissait par son attitude embarrassée, son front soucieux, son regard qui se voilait par moments sous celui de sa fille. Edmé ne l'avait jamais vu ainsi. On eût dit qu'il avait honte. Pour la première fois, il manquait à sa franchise ordinaire. La pauvre enfant se creusait l'esprit sans arriver à trouver une explication qui la satisfit, et elle se demanda quel malheur le menaçait. Elle aimait tant son père. C'était la seule personne au monde qui lui eût jamais témoigné une réelle affection. Elle se le rappelait à toutes les époques de sa vie, bon, dévoué, aimant, l'entourant de soins, la berçant dans sa tendresse infinie. Elle s'était habituée à être aimée ainsi. Pour mieux dire, elle ne croyait pas alors qu'on pût l'aimer davantage ou autrement, et elle s'était abandonnée confiante en cet amour, où elle entrevoyait un avenir reposé et calme. Monsieur de Beaufort lui eût demandé de mourir qu'elle n'eût point discuté, si elle avait pu croire que sa mort dût aider à son bonheur. Mais depuis quelque temps, un grand trouble s'était emparé d'elle, et il ne lui fut pas difficile de voir que Monsieur de Beaufort n'était plus le même. Il ne lui parlait plus maintenant qu'avec contrainte. À peine un pâle sourire effleurait-il sa lèvre. Une fois ou deux, des mouvements d'impatience lui étaient échappés. Lui, qu'elle avait toujours trouvé complètement placide et doux, que s'était-il passé ? Le jour de son départ de l'adoration, elle avait tenté de l'interroger. 1000 questions se pressaient sur ses lèvres. Elle avait espéré un moment que son père lui parlerait de Gaston, et naïvement elle s'étonnait qu'il se fût tu sur ce point. Un sombre nuage passa sur le front de Monsieur de Beaufort, et il enveloppa sa fille d'un douloureux regard. « Pauvre et cher enfant, » dit-il d'un ton contenu, « ne m'interroge pas, je ne puis rien te dire aujourd'hui. » Mais ne doute jamais de mon inaltérable affection.
Vous savez bien que je suis résignée d'avance à faire tout ce que vous me demanderez. Dû ma soumission me coûter le bonheur de toute ma vie. Mais en échange de cette obéissance aveugle à vos volontés, ne me sera-t-il pas permis au moins de connaître le sort que l'on me destine afin que je puisse m'y préparer ?
Oui, tu as raison. Je te dirai tout.
Mais quand cela ?
Bientôt.
Et en attendant, vous allez me conduire dans une autre maison ?
Où tu ne resteras pas longtemps.
Mais vous m'y viendrez voir.
Oui, oui, souvent, je te le promets. Est-ce que je pourrai jamais renoncer à un pareil bonheur ?
Edmé secoua tristement la tête.
« Voyez, dit-elle d'un accent brisé, si j'ai besoin de croire à votre amour, puisqu'il ne me restera plus que vous dans ce monde dont je vais être séparée. »
Monsieur de Beaufort la prit dans ses bras et la baisa à plusieurs reprises sur le front et dans les cheveux.
« Tais-toi, tais-toi » balbutia-t-il, pendant que deux larmes tombaient sur les joues de sa fille.
Celle-ci se dégagea brusquement, comme si ses deux larmes l'avaient brûlée.
« Vous pleurez ? » s'écria-t-elle effrayée. « Oh, ce n'est pas moi au moins qui vous cause ce chagrin. »
« Non, sur ma vie, je le jure. »
« Aucun danger ne vous menace ?»«
Aucun, quelle idée !»«
Mon Dieu, c'est la première fois !»« Pleurez, vous ! Mais qu'arrive-t-il donc ? Par pitié, au nom du ciel, dites-moi !»
Monsieur de Beaufort lui mit la main sur la bouche. Il avait fait un effort surhumain et s'était contenu. Il put ébaucher un sourire.
« Voyons, dit-il, ne t'effraie pas. Tu es une enfant. Je ne peux pas tout te dire. Mais avant peu, je l'espère, je te confierai ce secret qui, révélé aujourd'hui, pourrait n'être pas sans danger. Comprends-tu ?
Je ne comprends qu'une chose, c'est que je suis prête à vous obéir.
À la bonne heure. « Eh bien, partons.
Où me conduisez-vous ?
Viens toujours, ne m'interroge pas, et ne redoute rien tant que je serai près de toi. »
Edmé n'avait plus fait d'objection, et elle s'était confiée à son père. Dès le soir même, elle entrait dans un nouveau couvent qu'elle ne connaissait pas, dont elle n'avait pas même demandé le nom, et après avoir été reçue par la supérieure, elle se laissait conduire dans la cellule qu'elle allait habiter désormais. Elle était comme accablée, ne cherchait à s'expliquer rien de ce qui se passait et se sentait disposée à n'opposer plus aucune résistance. Plusieurs mois se passèrent de la sorte. Monsieur de Beaufort était venu souvent dans le commencement et cela l'aidait à vivre. Il ne l'abandonnait pas et c'est tout ce qu'elle demandait. Mais bientôt les visites de son père devinrent plus rares et plus courtes. Elle remarqua aussi que chaque fois son front était plus soucieux, qu'il semblait préoccupé, qu'il ne parlait que par monosyllabes et répondait à peine à ses questions. Toutes ses appréhensions reparurent. Elle eut froid au cœur. Elle s'imagina qu'elle était la cause des soucis de M. de Beaufort, et vaguement, elle entrevit un abandon prochain. Alors son esprit s'exalta. Et elle chercha à se réfugier dans un autre sentiment plus intime, plus mystérieux, le seul qui pût la sauver dans la détresse où elle se trouvait. Elle avait à peine connu Gaston de Pradel, mais il n'était pas besoin de voir souvent le jeune commandant pour reconnaître en lui une nature supérieure, un esprit élevé, un cœur excellent. D'ailleurs, Gaston l'aimait, il le lui avait dit. Et parfois, dans le silence des nuits, elle se rappelait la douceur émue de sa voix et l'éclat pénétrant de son regard. Elle oubliait alors tout ce qu'elle avait souffert, l'isolement où elle était réduite, pour ne songer qu'à cet amour qui lui semblait l'unique refuge où elle put espérer la sécurité et le bonheur. Bientôt elle n'eut plus d'autre pensée, et sa passion s'augmenta de tous les cruels soucis dont elle était abreuvée. Il se développa même en elle, sous l'influence de cette solitude que rien ne venait plus troubler qu'à de longs intervalles, une audace de rêve qui lui communiqua des inspirations inconnues. Ses nuits se peuplèrent de fantômes qu'elle aimait à revoir et qu'elle évoquait avec ardeur. Elle se faisait ainsi un monde à part, où elle vivait presque heureuse. Les autres souvenirs de sa vie s'effaçaient peu à peu, et à la chapelle, sous la douteuse clarté des lampes nocturnes, ou dans sa cellule, enveloppée du noir silence des longues nuits, elle ne songeait plus à autre chose. Les heures passaient sans qu'elle les comptât. Souvent, l'aube blanchissait les rideaux de sa fenêtre, qu'elle n'avait pas encore clos la paupière. L'image de Gaston ne l'avait pas quittée, et ce n'est qu'aux premières lueurs du jour qu'elle se décidait à abandonner son chevet. Ce fut là pour elle un dérivatif puissant aux tortures qu'elle eut endurées. Dès ce moment, elle ne fut plus seule. Gaston était toujours près d'elle. Elle lui parlait avec tout l'abandon d'une âme pure et candide, et formait des projets d'avenir auxquels elle l'associait, et dont la réalisation lui paraissait de jour en jour plus facile. C'était une consolation, mais cela pouvait aussi devenir un danger, et dès qu'elle se trouverait de nouveau en butte aux tristes réalités de la vie, il était à craindre qu'elle ne s'y brisât. Et puis, il y avait encore autre chose qui l'eût bien effrayée, si elle s'en était aperçue. Dans cet isolement auquel elle se complaisait maintenant, sous l'empire de ses aspirations, dont elle ne cherchait pas à modérer l'ardeur, son amour avait pris des proportions inattendues, et elle s'abandonnait à cette pente vertigineuse sans se douter de l'abîme où elle aboutissait. Comment aurait-elle pu croire que ce sentiment, qui la prenait avec tant d'autorité et par tous les sens, pût être répréhensible? Il n'y en avait pas d'autre auquel elle pût se rattacher, et il la rendait si heureuse. Qui donc eût pu la reprendre de s'y livrer tout entière? Lui offrait-on une autre issue à la douloureuse condition qui lui était faite? D'ailleurs, pour tout dire, à de certains moments, elle se sentait prise du désir fou de se soustraire, à quelque prix que ce fût, au sort injuste dont elle comprenait bien qu'elle était menacée. Et en quelle main plus loyale que celle de Gaston pouvait-elle remettre son honneur et son avenir? Heureusement pour la pauvre recluse, Gaston n'avait point découvert encore le couvent où on l'avait enfermée, et aucune catastrophe n'était à redouter. Mais les événements allaient bientôt se précipiter, et il n'était pas inutile d'établir dans quelle situation d'esprit elle se trouvait pour bien expliquer la part singulière qu'elle devait y prendre. Chapitre 2. Un soir, Edmé se trouvait seul. On était à la fin de mars, 6 heures venaient de sonner, et après le goûter, la pauvre enfant était remontée dans sa cellule. Depuis quelques jours, sans qu'elle eût pu dire pourquoi, une tristesse indéfinissable pesait sur son esprit. Elle se sentait fatiguée de cette vie monotone qu'elle menait. La solitude lui était lourde. Elle avait des malaises, des inquiétudes, qui sourdement s'emparaient de tout son être. Elle étouffait sous ses murs épais et silencieux. Un besoin impérieux de mouvement et d'air la prenait. Il lui semblait qu'elle était enterrée vivante dans un cercueil étroit et qu'elle ne pouvait plus respirer. Dès qu'elle se trouva dans sa cellule, elle courut à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Il lui vint du dehors un souffle tiède auquel elle tendit sa lèvre avide et son regard plongea dans les allées du verger. La nuit venait peu à peu. Des ombres transparentes flottaient indécises dans le vaste enclos, et au-delà du mur de clôture, elle entendait le piétinement de quelques rares passants. Il y avait là, à une faible distance, une petite maison isolée au milieu d'un terrain vague qui plus d'une fois déjà avait attiré son regard. Elle était inhabitée. Tout au moins n'y avait-elle jamais constaté la présence d'aucun être humain, et les volets du premier étage en étaient toujours fermés. Oh, cette petite maison! Que n'eût-elle pas donné pour y pénétrer et y demeurer, ne fût-ce qu'une heure? Libre, être libre! Quel rêve pour une malheureuse recluse! Et puis, dans son imagination surexcitée, avide d'inconnu, il lui semblait parfois que cette demeure renfermait un mystère. Elle l'avait préoccupé souvent, et sa curiosité était incessamment éveillée sur ce point. Elle resta ainsi absorbée, songeuse, tourmentée de questions impatientes qu'elle adressait aux hôtes inconnus de la maison abandonnée. Tout à coup, elle tressaillit et se retira de la fenêtre qu'elle referma vivement. Elle venait d'entendre des pas précipités dans le corridor qui conduisait à sa cellule. Qui cela pouvait-il être? Elle n'attendit pas longtemps. On frappa à la porte. « Entrez !» dit-elle d'une voix tremblante. La porte s'ouvrit et un homme parut. C'était Monsieur de Beaufort. Elle courut se jeter dans ses bras. « Mon père, mon bon père !» s'écria-t-elle en fondant en larmes. « Cher Edmé !» dit Monsieur de Beaufort. Mais il n'acheva pas. Edmé venait de se relever et avait fait un mouvement d'effroi. « Mon Dieu !» balbutia-t-elle. « Je n'avais pas remarqué d'abord. Vous paraissez émue. Votre main est glacée. Qu'est-il arrivé ?»« Rien, rien. Ne me cachez pas, je vous en conjure. » « Remets-toi, je vais te dire. Il y a un malheur ? Non. Un danger ? Peut-être. Ah ! Expliquez-vous, au nom du ciel, que dois-je craindre ? Rien. Pour toi. Pour moi ? Fit Edmé avec étonnement. Oh, ce n'est pas de moi que je m'occupe. Sans doute, ton cœur est excellent, je le sais. C'est aux autres, et non à toi, que tu penses d'abord. Eh bien, tu as deviné. Tout à l'heure, en descendant de voiture, comme j'allais pénétrer dans le couvent, j'ai cru m'apercevoir que j'étais suivie. Suivie ? Répéta Edmé. Et pourquoi ? Tu ne peux comprendre, et il faut que tu le saches cependant. Écoute, j'ai des ennemis qui, après avoir juré ma perte, ne reculeront devant aucune audace pour atteindre leur but. Et veux-tu que je te dise quel est ce but infâme qu'ils poursuivent ? Parlez ! Ils ont comploté de t'enlever à mon amour, de t'arracher de mes bras. Enfin, quelle folie ! Interrompit Edmé, en commençant un sourire qui s'éteignit aussitôt devant l'expression douloureuse qu'elle remarqua sur les traits de son père. « Mais vous savez bien qu'aucune violence humaine ne triompherait de l'amour que je vous ai voué et que je vous conserverai tant que je vivrai. »« Oh, ils ne l'ignorent pas non plus. » Aussi n'est-ce point par la violence qu'ils comptent procéder. Et c'est bien plutôt une complice qu'ils espèrent rencontrer en toi. Une complice ? Ils l'ont déjà tenté. Et si nous ne t'avions soustraite à leur redoutable influence ? Mais que voulez-vous dire, mon père ? En interrogeant ainsi, la pauvre enfant levait sur Monsieur de Beaufort un regard où tremblait une lueur inquiète. Et comme son père ne répondait pas assez vite à son gré, « Quels sont donc ces ennemis qui ont médité un pareil projet ? » ajouta-t-elle en se penchant, le souffle ardent et la poitrine oppressée. Vaguement, elle avait été touchée par le soupçon de la vérité, et un frisson passait sur ses épaules. Il y eut un silence. « Vous vous taisez ? » insista Edmé. « Tu ne devines pas ? » répondit Monsieur de Beaufort. Edmé pressa son front de ses deux mains. « Ah, ce n'est pas de sœur Rosalie que vous voulez parler ? » dit-elle après une courte hésitation. « C'est d'elle, au contraire, qu'il s'agit, » dit Monsieur de Beaufort. « Pauvre femme ! Tu la plains ? Si vous saviez comme elle est malheureuse ! » Elle te l'a dit. « Souvent, je l'ai vue pleurer. Elle a perdu une enfant et ne s'est jamais consolée. Pourquoi vous en voudrait-elle ? Quelle raison de croire qu'elle ait eu l'idée de faire de moi une complice quand il est question d'attenter au bonheur de mon père? Elle connaît mon cœur, je ne lui ai jamais rien caché, et puis...
Quoi?
Que peut-elle tenter au couvent d'où elle ne sort jamais? Elle s'est fait au dehors un auxiliaire actif, qui lui aussi a intérêt à découvrir ta retraite.
Un auxiliaire?
Monsieur de Pradel. Edmé ferma les yeux comme sous une sensation aiguë.
« Monsieur de Pradel ? »
répéta-t-elle d'un accent contenu. Ah, « J'espérais que vous m'épargnerez le chagrin d'entendre calomnier de la sorte l'homme le plus loyal que j'ai connu. »«
Tu le défends ? » ?»«
Oui, mon père, comme je vous défendrai vous-même, car je l'estime autant que je l'aime. » Et comme à cet aveu son visage se couvrait d'une subite rougeur, elle secoua vivement la tête pour chasser toute défaillance. « Au surplus, ajouta-t-elle, je n'ai pas revu Monsieur de Pradel et ne le reverrai probablement jamais, non plus que sœur Rosalie. Ils m'ont oublié sans doute. et vous savez que l'on peut compter sur ma résignation, que je ne ferai rien qui ne soit conforme aux idées d'honneur et de vertu que vous m'avez enseignées, et que de quelque côté que vienne la violence, je saurai la repousser avec la même énergie. » Edmé avait prononcé ces paroles d'un ton résolu et ferme qui frappa M. de Beaufort. Il tressaillit. « De quelque côté que vienne la violence, » répéta-t-il. « Quelle pensée est donc la tienne ?»«
Le sais-je, et que puis-je répondre ?» répliqua Edmé avec vivacité. « Vous ne voulez donc pas comprendre ce que je souffre ? Être ainsi seul, toujours, livré aux plus amères réflexions. Et vous ne vous imaginez pas quelle nuit je passe dans cette froide cellule où nous sommes, et quelles résolutions folles viennent parfois m'y solliciter.
Que dis-tu ?
Toutes les jeunes filles que je connais ont au moins une mère qui les aime, tandis que moi,
malheureuse.
Vous voyez, j'en arrive à être injuste, mais est-ce ma faute ? Et serais-je responsable si on me pousse à quelque acte de révolte ?
Edmé !
La pauvre enfant fondit en larmes.
« Non, non, je suis folle, ne m'écoutez pas, » dit-elle. « Tout ce que je dis là est insensé, mais j'ai tant besoin d'être aimée. »
Monsieur de Beaufort ne répondit pas tout de suite. Il allait et venait à travers la cellule, en proie à une agitation extrême, ne sachant quelle partie prendre, ni à quelle parole avoir recours pour calmer le désespoir de sa fille. Enfin, il se rapprocha.
« Cher Edmé, dit-il, cher enfant adoré, ne te laisse pas aller à ce désespoir. Je vais partir, mais je reviendrai bientôt, dans quelques jours, et je promets de mettre fin à ton chagrin. Tu me crois, n'est-ce pas ?
Et qui pourrais-je croire si ce n'est vous ?
Bien, bien, seulement il faut te raisonner. Nous avons, je le répète, des ennemis cruels qu'aucune considération ne doit arrêter, et qui sont résolus à se faire un jeu de notre repos et de notre honneur.
Ah, ceux-là ne pourront rien contre l'amour que je vous ai voué.
Eh bien, je pars rassurée. Tu es la meilleure des filles, et crois bien que je n'ai d'autre souci que ton bonheur. »
Et M. de Beaufort s'éloigna, laissant sa fille plus agitée et plus émue qu'elle ne l'avait jamais été. Machinalement, elle alla rouvrir la fenêtre pour rafraîchir son front à l'air du soir, et s'y étant accoudée, elle laissa son regard flotter, indécis, sur le tableau qui se déroulait devant elle. Mais alors, une sensation violente la prit au cœur, et un frisson vint la glacer tout entière. Tout ce qu'elle vit lui sembla étrange, ou pour mieux dire, impossible.